Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Donc, Colossiens, chapitre 1er, la deuxième partie, c'est Paul qui dit ceci, verset 25, « Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, et il qualifie cette parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » Et Paul d'ajouter, c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Voilà, on retient un mot, mystère. D'accord ? Et puis maintenant, nous allons lire. Et ce qui fera le commentaire de notre matinée, Ecclésiaste, chapitre 2, livre de l'Ecclésiaste. Alors là, on repasse dans l'Ancien Testament. Nous venons dans l'Ancien Testament, Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24. Alors, si ça peut vous indiquer, Ecclésiaste, c'est après le livre des Proverbes. Parce que c'est quand même un petit livre, hein. Faut le trouver. Mais il y a plus petit encore. Alors on va écouter ce que nous dit l'écrivain de ce livre, et il dit ceci, inspiré. Hein. Verset 24. « Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu, qui, en effet, peut manger et jouir, si ce n'est moi, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. » Et nous reprenons le texte suivant. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose, sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, la récolte, hein, si vous aimez mieux, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne, ce qui est, a déjà été, et ce qui sera, a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. Que Dieu nous bénisse. Extraordinaire que le livre de l'Ecclésiaste. Figurez-vous que c'est un livre qui a deux facettes. Et c'est ce que je voudrais démontrer ce matin pour fortifier notre foi les uns et les autres. Pour que nous puissions être remplis de cette confiance en Dieu. C'est un message de foi avant tout. Nous allons avoir deux regards ce matin. Deux regards. Un premier regard, la vie vue par un incrédule et la vie vue par un croyant. Alors nous allons mettre les deux finalement en contraste. Et puis je pense que déjà vous avez fait le choix. Il y a longtemps que vous avez fait le choix. Mais c'est intéressant de pouvoir considérer les choses sous cet angle. Et le livre de l'Ecclésiaste est un livre assez mystérieux, assez difficile à saisir de première lecture, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont dites et des choses qui, quelque part, sont dites, mais d'une autre manière, on ne sait plus tellement où on en est. Tout est vanité. Alors pourquoi ? Alors c'est bien peut-être les questions que la plupart des hommes se posent, mais je pense que la Bible répond à tout cela. Et je dirais que la compréhension, la lecture du livre de l'Ecclésiaste, eh bien, c'est la clé qui ouvre la porte de la compréhension de toute la Bible, de la vie humaine, et du livre en particulier de l'Ecclésiaste nous donne véritablement eh bien, une notion tout à fait particulière, très juste. Le mot « Ecclésiaste » veut dire « prédicateur », celui qui parle, celui qui annonce. Et nous allons commencer par le premier point de vue, si vous voulez bien. Il y en aura deux. Je commence par le premier, qui est la vie vue par un incrédule. Et cette première conception, première vision, première approche de l'existence humaine pourrait se résumer ainsi à un autre texte que vous connaissez, où il est écrit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Vous connaissez ce passage ? « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Cela nous ouvre un univers purement matériel, pour ne pas dire matérialiste, où, mis à part les choses de la terre, avec toutes ses contingences, avec ses joies et ses peines, eh bien, il n'y a aucune espérance. C'est une conception qui est très répandue dans notre monde. L'auteur du livre de l'Ecclésiaste, il s'appelle Salomon. Vraisemblablement, Salomon, il est roi d'Israël, et il est auteur de ce qui est écrit, ce que nous avons lu. C'est un homme qui est privilégié par la vie, parce que finalement, il a pu goûter à tout ce que l'existence peut offrir à un homme ici-bas. Il était roi, fils de roi, il régnait sur un empire, ce n'était pas seulement un royaume, il avait reçu la bénédiction de Dieu, la sagesse, l'intelligence, il avait la connaissance et aussi l'exercice des arts, parce qu'il a écrit. Il était certainement un homme, on pourrait dire, un homme avec de grands talents et de grands dons. Il était même, peut-être même, quelque part, au regard de ses contemporains, prodigieux, au sens où on ramène cela dans le cadre humain, naturellement. Et il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer de l'idéal de la vie ici-bas. Palais, un peuple qui le servait, des soldats, des armées. Il avait des chevaux, il avait aussi, bon, pas mal d'accompagnatrices, hein, je dis ça de cette manière, enfin, des richesses, alors tel point qu'il nous est dit à un moment donné que l'or, eh bien là, était aussi fréquent que les pierres à Jérusalem, je vous dis pas, hein, ce que ça peut être, parce qu'il y a pas mal de pierres hein, dans la région. Alors, c'était un homme, donc, vous pouvez dire, eh bien moi, j'ai tout. J'ai tout, je sais tout, je connais tout, enfin, jusqu'à une certaine mesure. Alors, en promenant ses regards sur la vie, d'abord la sienne et puis aussi celle des autres, Salomon en vient à la conclusion que vivre, et ça c'est désespérant, vivre est une pure perte de temps. Pourquoi vivons-nous ? Pourquoi sommes-nous là ? Vous vous rendez compte ? Arriver à un tel sommet et de dire, eh bien, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça, c'est vu par un incrédule. Je ne veux pas dire que Salomon était incrédule, mais il donne la version d'un incrédule dans cette affaire. Comme il y a des millions et des millions de gens autour de nous qui pensent certainement la même chose. Une pure perte. Que faisons-nous ? On se souvient de Job qui dit « Je maudis le jour de ma naissance ». C'est une désespérance. Parce que cela ne rime à rien. Et la vie n'a ni sens ni but, si on la considère eh bien comme cela. Dès le début jusqu'à la fin, tout se révèle, temporaire, transitoire, éphémère et souvent futile. On se dit, mais à quoi bon? Quand on regarde certaines existences, on se dit, mais à quoi ça sert? On a pu être comme un célèbre présentateur qui est décédé ces jours-ci, avoir été au sommet de la gloire, avoir tenu finalement, être sous les projecteurs pendant des années et puis se retrouver tout seul pendant les dernières années de sa vie. À quoi ça sert? Et je crois que ça peut vraiment engendrer de l'amertume et de l'aigreur. À quoi cela sert-il? Et pour souligner sa conviction, nous voyons que Salomon va utiliser le superlatif « vanité des vanités, tout est vanité et poursuite du vent ». À chaque chapitre, vous avez cette parole qui revient et qui revient et qui revient encore. Salomon, maintenant, considère les activités multiples qu'un homme peut exercer dans cette vie terrestre. Et vous savez, on en fait des choses. D'une manière ou d'une autre, on n'a pas que le travail. Heureusement d'ailleurs. Mais on a toutes sortes d'activités. Et lui, il prend, il base sa réflexion sur ce qu'un homme est capable de faire avec ses mains, avec son intelligence, d'une façon ou d'une autre. Et là encore, après une vie de travail, après avoir été peut-être hautement élevé par la vie sociale, dans la réussite professionnelle, il en conclut, à quoi bon travailler, on l'a lu, à quoi bon travailler péniblement? Qu'est-ce qu'un homme a à gagner, puisque finalement, à la mort, il perdra et laissera tout? Ça vous rassure? C'est pas très gai ce que je suis en train de dire. Alors demain, vous n'avez pas de travail, ça sert à rien. C'est la conclusion qu'en tire Salomon. Le fruit de ses efforts de l'homme lui échappera et sera peut-être dilapidé sottement par quelqu'un qui n'aura pas connu ni la valeur ni la peine qu'on s'est donnée pour lui transmettre un héritage. Et ça, c'est quelque chose de terrible. De voir que la réussite nous a accompagnés toute notre vie et qu'on a confié ces choses dans les mains de quelqu'un qui est en train de tout dilapider parce qu'il n'a pas connu la peine. Il l'a hérité. Et c'est le problème de Salomon vis-à-vis de David. David était un homme qui a peiné, un homme de Dieu. Il a combattu toute sa vie, c'était un homme de combat. Et puis voilà que Salomon arrive, il dit « c'est formidable, c'est très bien, je m'assois sur le trône ». Alors ça a été très bien pendant les premières années de sa vie, mais à la fin c'était un véritable désastre, puisque c'est à ce moment-là que Israël s'est scindé en deux, qu'il y a eu ce schisme, le royaume du Nord et le royaume du Midi, Juda et Israël. C'est une catastrophe. Salomon entrevoit la fugacité de l'existence et il se dit qu'on vit si peu de temps, puis on meurt. Parce que ça paraît long quand on est jeune, la vie. Puis quand on commence à vieillir un peu, on se dit, dis donc, oh là là, qu'est-ce que ça va vite hein? Qu'est-ce que ça passe vite, une vie? C'est vrai. La scène terrestre demeure, mais les acteurs se succèdent les uns et les autres en essayant de réinventer le monde. Et on se dit que, il y en a eu avant nous. Mais quand on arrive dans une position, dans une place, lorsque nous avons notre place au soleil, on se dit, on recommence tout. Pour notre compte. Et on réinvente le monde. Quelquefois, on voit des adolescents, des jeunes qui se rassemblent entre eux et qui refont le monde. Ça devrait être comme ça, ça devrait être ceci, ça devrait être cela. Mais bon, il faut les laisser rêver, parce que finalement, il va y avoir d'autres réalités qui vont les rattraper. Mais on l'a fait, ça aussi. On l'a fait. Et c'est pourquoi, justement, dans cette réinvention du monde, qu'est-ce qu'on en a de plus à trouver que ce que nous dit les premiers versets du chapitre 3 de l'Ecclésiaste? Mais il y a un temps pour toute chose. Vous vous rendez compte? Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour récolter, un temps pour ceci, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix, et ceci et cela, voilà. On n'a rien changé aux choses. Aujourd'hui, c'est toujours le même refrain qui revient. Ensuite, dans le vaste et mystérieux domaine de la vie morale, Salomon se penche. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, il a parlé des activités de l'homme, son travail. Qu'en retire-t-il? Mais dans la vie morale de notre monde, de tous les temps des civilisations, on s'aperçoit qu'il n'y a jamais de réel progrès au sens où le progrès apporte du bien aux hommes, mais un bien réel, pas un bien passager, matériel, uniquement matériel, mais un véritable progrès. Plus le monde découvre, moins il maîtrise. Et c'est peut-être ce qu'il fera dire aussi dans l'Ecclésiaste, cette parole, que beaucoup de science augmente beaucoup de souffrance, dans un certain sens. C'est pas pour ça qu'il faut rester dans l'ignorance, parce que Dieu nous a donné une intelligence. Mais néanmoins, il y a des choses qui sont stériles, qui n'apportent à rien. Alors on s'aperçoit que le monde découvre, et moins il maîtrise les choses. Vous savez que nous sommes sur une poudrière quand même. Hein. On n'y pense pas, heureusement qu'on n'y pense pas, parce qu'on déprimerait. Mais nous sommes là à quelques, à peu de choses d'un séisme dans bien des domaines, dans le monde moral. L'homme invente et il crée sans cesse. Et nous pourrions, c'est vrai, nous pouvons dire, mais l'homme est intelligent. Il sait faire des choses et nous en bénéficions tous les jours. Donc, il crée sans cesse. Et la civilisation du moment, la nôtre, n'est pas meilleure que la civilisation d'avant ou les civilisations précédentes. On s'aperçoit que, bon, c'est un autre temps, c'est tout. On vit autre chose. On vit dans un autre monde. Et combien parfois nous entendons ces soupirs de gens qui nous disent « mais le monde n'est plus le même ». Parce qu'on est emporté, on est entraîné, la société, et puis l'évolution de la vie et toutes sortes de choses. Mais on a beaucoup plus, me semble-t-il, en quantité, mais probablement moins en qualité. Réflexion. En fait, le cœur humain ne varie pas. Et ça, c'est une constance. C'est ce que Salomon veut nous dire. Certes, l'homme est plus intelligent, mais il devient par son intelligence, un calculateur subtil. Je pèse mes mots. L'homme est plus organisé, ça c'est sûr, mais il est plus redoutable par sa technologie avancée pour dominer son semblable. Ça va dans un sens, il y a le produit, il y a le sous-produit aussi. Le produit peut être bon, mais le sous-produit peut être détestable dans la science, dans toutes sortes de choses. L'homme se donne une activité incessante, cependant, sans pouvoir s'élever au-delà de son horizon matérialiste. C'est vrai qu'on peut l'affirmer, on travaille beaucoup, même quand on nous a dit qu'on avait 35 heures, c'est pas 35 heures de toute manière, dans la réalité, peut-être pour certains. Mais même s'il fait beaucoup de choses, on s'aperçoit qu'il est plafonné et il y a un horizon qui ne va pas plus que le matérialisme. C'est ce qu'il fera dire à la Bible, « Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Et ça ne va pas plus loin que ça. L'humanité est prisonnière d'un cycle épuisant et sans fin. Et le mot revient dans notre récit, c'est « vanité ». J'ai souvent entendu quelqu'un dire « Mais pourquoi se faire du mal les uns les autres ? La vie est si courte. » J'ai souvent entendu cela, quelquefois après un enterrement. C'est bizarre. Eh oui. Pourquoi se faire du mal? Pourquoi se chamailler? Pourquoi s'élever? Pourquoi ceci et pourquoi cela? Parce que la vie, c'est quand même quelque chose de très, très, très court. Et quelqu'un a parlé de la vie comme la foire aux illusions. D'ailleurs, c'est le deuxième type du livre de l'Ecclésiaste, la foire aux vanités. L'œil, c'est le chapitre premier, hein, je restitue de mémoire, mais ça je reste dans le texte qu'on n'a pas lu. Mais l'œil est insatisfait de regarder, il veut toujours regarder. L'oreille est toujours, eh bien là, insatiable d'écouter, manger, boire, jouir. Et l'on y revient toujours sans connaître... Eh bien, la vraie est la plénitude de la satisfaction. Jésus nous raconte une rencontre avec une femme qui s'appelle la Samaritaine, autour d'un puits. Et elle vient, elle revient, et elle reviendra toujours. Mais ce jour-là, elle rencontre Jésus, qui va lui donner la réponse à son insatisfaction et à toutes ses perplexités existentielles. Vous avez compris ? Jean, chapitre 4. La vie se déroule remplie de frustrations, parce qu'elles existent aussi, avouées ou non. rempli de frustration de ne pouvoir goûter à tout ce qui ne nourrira jamais réellement. Et c'est vrai que nous sommes des consommateurs. Et il faut le dire aujourd'hui, nous sommes des consommateurs et nous sommes sollicités de plus en plus à la consommation. Vous n'avez pas d'argent, emprunté. Vous en avez, et moi je vous dis, remboursez. Tout ça, vous ne passerez pas à côté. De toute manière. Vous avez besoin de ceci, de satisfaire cela et cela. Aujourd'hui, c'est possible. Alors on goûte, on touche, on voit, on entend. Mais on sait très bien que cette nourriture-là ne nourrira jamais profondément notre âme. Et nous sommes véritablement dans un monde où on peut parler d'actes répétitifs, plus que dans le passé. Et ça a toujours été, de toute manière. Deux observations intéressantes que je voudrais mettre maintenant, c'est la nature et l'histoire. La nature. L'Ecclésiaste nous dit que la nature ressemble à une vaste mécanique. Il est parlé du soleil, toujours le chapitre premier, j'ai pas lu. Le soleil, les vents, les fleuves reviennent toujours là où ils sont partis. C'est un cercle perpétuel. Et quand nous ouvrons les yeux, lorsque nous entrons dans le monde, d'autres ont vu ce que nous voyons aujourd'hui et d'autres verront ce que nous ne verrons plus. Et ça ne change pas. Et heureusement que ça ne change pas, parce que c'est quand même ce qui fait l'équilibre. Et pour nous, c'est toujours nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire, maintenant, nous apprend rien, puisque les hommes refont les mêmes erreurs. Il y a eu des guerres depuis Caïn. L'homme, je crois, apprécie le goût du sang. On a inventé beaucoup, mais on n'a jamais résolu définitivement. Et on invente, et on recherche, et plus on recherche, plus on repousse les limites de la connaissance, et on est là comme un petit peu des hommes qui marchons dans un désert, eh bien, à courir après un mirage, en disant « Nous avons trouvé, Eureka !» Eh oui. Les mêmes problèmes demeurent depuis toujours. Qu'on ne s'imagine pas que notre passage ici-bas laissera une trace indélébile sur les sables du temps. Certains hommes veulent émerger dans la société où ils vivent, en construisant des monuments, en marquant leur empreinte, en faisant ceci et cela, des lois ou autre chose, ou à travers des talents artistiques, et on se dit on ne m'oubliera pas. Mais ce que j'appelle le sable du temps, et vous savez, il n'y a rien de plus instable que le sable. Observez la mer quand elle monte. Vous avez toutes sortes de traces sur le sable. Et puis, une vague passe, il ne reste plus rien. Tout est emporté. Ça, c'est la vie. On peut le dire de cette manière, si vous voulez. Parce que nous savons que la prochaine vague effacera vite nos pas comme elle a effacé celle de ceux qui nous ont précédés. Quel souvenir gardons-nous ? Ça va très vite, tout cela. Nous ne vivons pas longtemps dans la mémoire des autres. J'ai eu l'occasion, pendant mes vacances, dans le Midi, au mois de juin, ou simplement à me promener avec mon épouse, on s'est trouvé devant un vieux cimetière. Alors, c'est pas que c'est mon lieu de prédilection pour me promener. Et ce cimetière remontait à l'époque où il y avait eu la peste dans le Midi. Vous savez, la peste de Marseille dans les années... ou le choléra, plutôt. C'était plutôt le choléra. 1800 et quelques 50, enfin, dans ces... Tout avait été détruit, il ne restait plus rien du tout. Il y avait quelques stèles, quelques pierres, avec des noms qui étaient déjà complètement effacés. C'est pas si vieux que ça, ça fait 150 ans. C'est parti. Alors on peut s'attendre à la même chose. Ça va très, très, très vite. Alors, ce sont des réflexions que je vous livre, parce qu'elles sont suscitées par notre texte. On est oublié deux ou trois générations, et puis tout au plus, et puis finalement on disparaît. Vous n'allez pas déprimer quand même, j'espère. Ouais, parce que là, je serais quand même embarrassé. Mais j'ai quelque chose d'intéressant à vous dire après. Je suis en train de vous préparer. On a parlé dans le siècle dernier d'une philosophie qui s'appelle l'existentialisme. Je ne citerai pas le promoteur, vous le connaissez tous. L'existentialisme est synonyme de futilité. Et si je reprends un terme de la Bible, eh bien, c'est une vapeur qui passe. C'est une fleur qui éclot le matin et qui disparaît le soir. Car en fin de compte... il y a si peu de choses qui demeurent. Et quand on sait qu'il y a des millions et des millions de gens qui ont adhéré à cette philosophie, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Alors la vie est-elle aussi vaine? Et là, j'en arrive à ma deuxième question. La vie est-elle aussi vaine? La vie ne renferme-t-elle pas quelque signification autre que l'immédiat? Est-ce que tout ce qui est dans cette vie est dépourvu de sens? Quelle sorte de vie vaut la peine d'être vécue? C'est la question de Salomon. A-t-on le choix? Où et comment trouver la clé qui offre la réponse et qui va combler le cœur de l'homme, qui va apaiser ses perplexités? Ça, c'était la version, la vie vue par un incrédule. Salomon observe et il dit, voilà l'incrédule, voilà l'homme qui ne croit pas en Dieu, celui qui n'a pas d'espérance, voilà comment il conçoit les choses. J'étais à peu près exact? Enfin, on pourrait dire encore autre chose, hein, ça c'est sûr. Mais maintenant, nous allons passer à l'autre phase. Deuxième point de vue, c'est celui de l'homme de foi, radicalement opposé à la première conception. C'est tout le contraire. Et vous savez comment ça se passe. Parce qu'avant, nous étions dans l'autre camp, et maintenant, nous sommes passés dans ce camp-ci. L'homme de foi, le croyant. Et pour nous dire que si Dieu fait partie de notre vie, il y a donc un sens, et je pèse mes mots, il y a donc un but, et il y a donc une destinée. Et j'ajouterai, il y a pour l'homme qui croit en Dieu une destination. Il vient, il passe et il va. Dans le livre des Proverbes, il est dit ceci au chapitre 16, « Dieu a tout fait pour un but. » Et ça, je le crois. Dieu a un but pour chacun d'entre nous. Et il est particulier, il est, nous est propre. Et la réponse est donnée, par exemple, dans le psaume 31, je relis pour tout simplement restituer la parole exacte, au chapitre 31, au verset 16. Puisque Dieu a fait tout pour un but, a donné un but à toute chose, à la vie de l'homme, alors moi, je réponds, mes destinées sont dans ta main. Oui, Seigneur, mes destinées, eh bien, t'appartiennent. Et ça, je le sais. Je l'affirme. À la lumière de la foi, eh bien, peut-être nous pouvons dire, comme l'apôtre, et nous l'avons lu tout à l'heure, dans Colossiens, je relis simplement, d'une manière très simple, Paul dira que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tous les âges. La foi, c'est ça. La foi, c'est Jésus-Christ. La foi, c'est pas seulement que Dieu existe, mais il est le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui, qui comptent en lui, qui s'appuient sur lui. Alors, Paul dira, j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, parce que Dieu a voulu leur faire connaître aux hommes la glorieuse richesse de ce mystère, à savoir Christ en vous, en moi, en nous. Et il ajoutera, c'est l'espérance de la gloire. C'est pas l'espérance du cimetière. C'est pas l'espérance de l'anéantissement. C'est l'espérance de la gloire. Mystère, deux fois, l'apôtre Paul cite le mot « mystère ». Et pour l'incrédule, ça restera toujours un mystère, tout cela. Un mystère qu'il cherche à percer, découvrir, mais par ses propres moyens, par son intelligence, par sa logique, par ses analyses, par ses déductions. Mais nous savons qu'il y a le chemin de Dieu qui est beaucoup plus simple. Et c'est ce qui fera dire à Jésus, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Ce n'est pas de l'infantilisme que nous est demandé, mais d'être simple, humble, rempli de confiance comme des enfants. C'est une autre chose. Alors, à la lumière de la foi, Salomon tire trois conclusions. La première, je la relis. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais, dira-t-il, j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger et jouir si ce n'est moi? Et on a dit qu'il connaissait l'idéal du bonheur humain. Car Dieu donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner celui qui est agréable à Dieu, comme s'il y avait un transfert. C'est là encore une vanité, la poursuite du vent. C'est ça ce qui est déroutant dans le livre de l'Ecclésiaste. C'est qu'à un moment, vous avez des affirmations. Que nous adhérons, auxquelles nous adhérons, on nous dit c'est ça. Et puis après, on nous dit c'est vanité et poursuite du vent. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre dans tout cela? Salomon appuie le fait, j'ai vu que cela vient de la main de Dieu. Car il donne à l'homme. Dieu a toujours donné. Et il ne cessera jamais de donner jusqu'au bout. Il est le donateur céleste et suprême. Il donne à l'homme. Il donne à l'homme le bonheur de vivre. Il donne alors à l'homme le plaisir de manger. Il donne à l'homme le plaisir aussi de boire, modérément, de jouir. Il donne à l'homme le bien-être. Il donne la sagesse. Il donne aussi de travailler et toutes sortes de choses. Et cela est dispensé, selon le texte que nous avons devant les yeux, cela est dispensé par le céleste donateur. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est ce que Paul, finalement, nous dit lorsque, il annonce cette parole, alors qu'il prêche l'évangile dans une région tout à fait particulière, au chapitre 14, verset 17. Il est dit ceci à un moment donné. Alors attendez que je retrouve, chapitre 14, verset 17, excusez-moi. Voilà, c'est... Il nous est dit « Car ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en nous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant nos cœurs de joie. » C'est un don silencieux, un don presque invisible, mais un don permanent. Merci Seigneur parce que tu renouvelles tes bontés chaque jour sur ceux qui te craignent. J'ouvre une parenthèse, mes frères et mes sœurs. Ne vous laissez pas enfermer dans le piège diabolique de la négativité. Si vous voulez regarder, vous allez voir des choses extraordinaires et formidables. Si nous voulons emprunter le chemin du monde où on n'en a jamais assez, où on ne regarde que ce qui nous manque, eh bien nous serons les plus malheureux, vous serez les plus malheureux de tous les hommes. Alors aveugle l'homme? Oui, certainement. Vous avez remarqué que seulement dans ce petit passage que je viens de lire, il nous est parlé de trois fois du verbe donner. Donne, Dieu donne, donne, il donne toujours, il donne encore. Mais on pourrait dire, en y ajoutant ceci, c'est que le bonheur n'est pas inhérent à l'humanité puisqu'il donne à l'homme qui lui est agréable. Donc, Dieu serait-il partial? Qu'il a des favoris ou des chouchous, et puis ça va comme ça? Non, pas du tout. Le croyant sait que tout concourt à l'avance, ou à l'avantage, surtout, de ceux qui bénéficient de la faveur divine. Et il y a un texte qui m'a toujours interpellé, sur lequel j'ai prêché assez souvent, parce que, me semble-t-il, il est d'une poésie extraordinaire. Écoutez, qui nous fera voir le bonheur? Vous connaissez cela, hein? Et il y a cette prière, « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. » L'incrédule, moi le croyant, eh bien tu me donnes toi parce que j'ai les yeux fixés sur tes mains. Alors à ce moment-là, eh bien moi je peux dire que tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Quand abondent leur froment et leur mou, tout ce qu'il peut y avoir finalement d'abondance dans ce monde et qui quand même est encore eh bien, le produit de ta prodigalité. Alors je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Seigneur, je me réjouis de te connaître. Je me réjouis de connaître ta grâce, ton amour, ta miséricorde. Parce que finalement, aujourd'hui, si je vis, je ne vis que par toi. Je ne vis que de toi, Seigneur. Par contre, il nous est dit qu'il donne aux pécheurs. Celui qui veut composer sans Dieu ne peut compter que sur lui-même, ses propres forces. Mais qu'en adviendra-t-il? Et c'est là où nous rejoignons cette fameuse parabole de Jésus, la maison construite sur le sable et la maison construite sur le roc. Et vous avez vu la différence? Elle nous est donnée d'une manière très claire. Hein, c'est très compréhensible ce que Jésus nous dit. Et pourtant, c'est là que vanité et poursuite du vent, dans la version de l'incrédulité, pour nous dire que amasser, construire, faire fortune, si tout cela n'a pas de fond, n'a pas de sens, n'a pas de finalité, à quoi cela sert-il? Et ça peut être aussi un avertissement pour les chrétiens qui se laisseraient séduire par le chant des sirènes, de la promotion et de l'enrichissement. en sachant que Paul nous dit que c'est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant infectés, se sont détournés du Seigneur. Contentons-nous et soyons heureux de ce que nous avons et bénissons le Seigneur. Parce qu'autrement, si on part dans l'autre dérive, on n'aura jamais fini, mais jamais fini. Ne nous trompons pas, il existe une grande différence entre l'incroyant et le croyant. C'est ce que nous dit le psaume 73, je ne veux pas le relire. Mais c'est un homme qui est en train de penser à sa vie, c'est un croyant, un fidèle de Dieu, qui se dit, quand je me suis arrêté à regarder le monde autour de moi, j'ai vu que finalement le méchant prospère. Vous l'avez vu ça? Et j'ai vu qu'il est plein d'embonpoint, il est gras. Et puis, voilà, il fait le mal et il ne lui arrive rien. Jusqu'au jour où, dira le psalmiste, je suis rentré dans les sanctuaires de Dieu. Et que là, je me suis aperçu que finalement, il y avait une justice. Il y avait une rétribution pour ceux qui font le mal et il y avait une bénédiction pour ceux qui font le bien. Et il dira, j'étais comme les bêtes sans intelligence, je vivais, je regardais. Et puis finalement, je ne comprenais pas. Mais Dieu m'a donné sa révélation. Il m'a donné l'intelligence pour comprendre qu'il y a deux voies, qu'il y a deux chemins, qu'il y a deux options. Et que dans ce choix, eh bien, lorsque je choisis Dieu, alors à ce moment-là, eh bien, c'est tout autre chose. Parce que les apparences sont trompeuses. Et prions pour nos enfants. Parce que ça a été une chose pour nous, mais ça sera encore autre chose pour eux. Prions pour eux. Prions pour nos petits. Parce qu'ils vont rentrer dans un autre monde. Moi, quand je regarde mes petits-enfants, je me dis, mais quel monde dans lequel on les a fait rentrer. Nous avons tremblé pour nos enfants. Il y a deux ou trois décennies. Et on se dit, déjà à l'époque, on se disait, mais comment vont-ils vivre? Bon, ils sont arrivés jusqu'à maintenant. Mais maintenant, ils ont des enfants. Et moi, je me pense et je pense et je dis, mais comment vont-ils vivre dans le monde? Quel sera le monde qu'on va leur laisser? Les apparences sont trompeuses, elles sont illusoires. Mais regardons à la fin des choses avant de juger. Parce que le résultat définitif en fait foi et en donne la preuve. Ce n'est pas une chose quand elle arrive, c'est de voir les résultats, comme dira Jésus dans le sermon sur la montagne, vous jugerez aux fruits. À dire que toute vie humaine s'inscrit dans un plan dont le facteur temps est essentiel à sa réalisation. On est renfermé. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas vous en extraire. On ne pourra pas s'en extraire. C'est comme cela. Et il y a ce facteur que l'on appelle le temps. L'existence terrestre, nous fait entendre Salomon, est prisonnière entre deux pôles, naître et mourir. Et ensuite, toute la vie ou la vie entière va au rythme de ce refrain. Il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour cela. Si vous relisez le texte, vous verrez qu'il y a 2 × 7 antithèses. 14, mais c'est bien dit, 2 × 7 antithèses. Et c'est comme un leitmotiv, c'est comme quelque chose qui va dans un sens et dans un autre, ça balance. Et toute notre vie, elle est prise dans cet étau, elle est prise en cela finalement. Et dès lors, on peut en conclure, on ne peut conclure à l'absence de signification à tout ce qui se passe, à tout ce qui nous arrive de subi ou d'agi. Il y a des choses que nous subissons, mais il y a des choses sur lesquelles nous agissons. C'est la vie. Absolument tout dans cet univers fait partie d'un grandiose ensemble et harmonieux qui dépasse notre compréhension. Et Paul, qui était quand même un fin homme de foi, s'exprimera à travers cette parole que vous connaissez et en adorant le Seigneur, il dira « aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Alors devant cela, comme quelquefois nous le chantons dans nos beaux cantiques, je n'ai plus qu'à me prosterner devant Dieu et de l'adorer. C'est tout. Qu'est-ce que je peux prétendre ? Être plus intelligent, plus savant, plus ceci, plus cela, parce que nous sommes toujours dans l'inflation, toujours de plus en plus dans notre monde. Mais peut-être en voulant jouer à Dieu, l'homme va devenir une bête. Hein. Bon, de toute façon, il l'a déjà fait. Ô sagesse infinie, profondeur, je ne peux que m'émerveiller devant tout cela. Mon Dieu, que tu es grand, quand je contemple ce que tu as fait, la création. Écoutez bien, il y a une époque, il y a un moment prévu, voire un instant, pour chaque événement. Chaque détail sert au pulse divin, et même ce qui semble hasard ou coïncidence rentre dans un plan préétabli à une réalisation éternelle. Le but, il est là. Et j'ai bien mis l'adjectif « éternel ». Et il y a quelquefois une rencontre. Il y a un moment. Il peut y avoir un instant dans notre vie qui peut tout changer. Et moi, je veux le croire pour ma propre vie, mais je veux le croire aussi pour tous ceux qui sont encore dehors et qui, à ce moment-là, peuvent faire une rencontre, la rencontre, avec Jésus, leur sauveur. J'y crois. C'est, excusez-moi, j'aime pas le terme, mais c'est de la foi positive. J'aime pas le terme. C'est de la foi. Tandis que l'incrédule qui continuera à se demander « À quoi cela sert-il ? » À quoi tout cela rime ? L'homme de foi y verra un sens évident et vivant journellement dans cette paisible perspective, il s'en réjouira et se défendra de ne pas être le jouet de circonstances ou d'accidents qui lui échappent. Oui. Parce que rien n'échappe au Seigneur. Et à chaque fois que je suis confronté avec des incidents ou des accidents de la vie, heureux ou malheureux, je dois me dire il y a la main de Dieu derrière. Et ça change beaucoup de choses. Ça change tout. Il y a la main de Dieu derrière. Et ce que nous avons envie, c'est de vivre ça tous les jours. Ouais. Je voudrais vous communiquer cela, frères et sœurs. Parce que je dis que la vie avec le Seigneur, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Seigneur, donne-moi plus. Être croyant, c'est posséder une assurance intérieure inébranlable, car c'est savoir que toute chose, vous connaissez Romains 8, 24, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et non seulement au bien, mais le bien le meilleur. Parce que Dieu ne fait pas de demi-mesure. Il donne ce qui est le meilleur, si nous croyons qu'il peut nous donner le meilleur. Si je veux me contenter d'une demi-mesure, eh bien, j'aurai ce que je veux, c'est tout. Mais moi, je veux le meilleur avec le Seigneur. Et c'est pourquoi nous avons ce texte qui a marqué mon histoire, personnellement. Dans Jérémie, quand il est dit ceci, je relis le texte parce que c'est quand même un très, très, très beau texte. C'est sur ce texte que j'ai été appelé à suivre Jésus. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur. Merci Seigneur que ce soit comme cela. » Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mes frères et sœurs, saisissez cette parole. Remplissez-vous de cette parole. Remplissez vos cœurs et votre tête. Remplissez votre conscience et votre esprit de cette parole. Et vous vivrez. Parce que ça s'appelle la foi. Et je termine. Une main invisible et divine gouverne toute chose. Pour tendre à un but ultime, le salut. S'il n'y a pas de salut, il n'y a plus rien du tout. Ce n'est pas d'une religion que nous avons besoin. Ce n'est pas d'une culture religieuse que nous avons besoin. Ce n'est pas de sacrements qui nous sont distribués comme cela au cours de notre vie. C'est le salut de Dieu. Son salut. Et il revient à l'homme devant le temps de sa vie ici-bas, de le découvrir et de s'y intégrer dans ce salut, en d'autres termes, de l'accepter tout simplement. On a vu vendredi soir ce texte dans Actes où il est dit que Dieu a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant. Vous savez ce que c'est de tâtonner ? Moi, ça m'arrive de me relever la nuit, je cherche ma pile électrique et je me cogne. Quand j'ai la pile électrique, je ne me cogne plus. Je tâtonne. Je trébuche. Voilà. Il a voulu que les hommes le cherchent, cherchent le Seigneur en tâtonnant. Et qu'est-ce qu'il est ajouté ? Bien qu'il ne soit pas loin de chacun d'entre nous. C'est pas mal ça, hein ? Seigneur, je te cherche. Que tu es loin, Seigneur. Dieu me dit, mais écoute, j'ai déjà ma main sur ton épaule. Alors, tu t'inquiètes ? Pourquoi t'inquiéter ? Si naturellement l'homme ne peut s'empêcher de se poser des questions empreintes d'une déprimante négativité du genre « à quoi cela sert ceci et à quoi cela sert cela ?» Je pense que ce n'est pas une question qui est posée par les chrétiens, quoique je l'ai quelquefois entendue. Dieu, finalement, eh bien, nous pousse quelque part à éprouver de la perplexité sur la seule et solennelle interrogation qui vaille. C'est le texte que nous avons lu tout à l'heure au verset 11. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est Dieu qui l'a mis. Et je dirais même, si vous voulez, on peut paraphraser, Dieu a donné à l'homme la pensée au fond de son cœur, la pensée de l'éternité. C'est ça ce qui tourmente l'homme. Et ça ne doit pas nous tourmenter, hein, pour nous. Et nous pouvons affirmer alors que, puisque toute chose avec Dieu devienne, comme nous l'avons lu dans notre texte, parce que je reprends le texte, belle et bonne. Si je me sers moi-même dans cette vie, j'aurai ce que je veux. Mais si c'est Dieu, si j'attends dans la foi, dans l'espérance de sa grâce, alors à ce moment-là, il va remplir ma vie, mes mains, de choses belles et bonnes. Salomon le dit. Devons-nous alors regarder au-delà des événements quotidiens et saisir que nous sommes des créatures spirituelles à vocation éternelle? Je ne suis pas là pour 70, 80 ans, 90 ans, 120 ans, faute fort, hein, mais sur la terre. Mais je suis là parce qu'il y a une destination pour moi. Il y a un voile qui m'empêche de percevoir ce qu'il y a derrière le rideau. Mais je sais que Dieu m'a dit que derrière le rideau, il n'y a rien de comparable avec cette vie ici-bas. Et je me réjouis pour ça. Nous avons une vocation éternelle. C'est ce que le livre de l'Ecclésiaste est en train de nous dire partout, même si c'est dit avec toujours cet accompagnement vanité des vanités. Non, c'est le contraire qui se produit. Parce que l'éternité en Christ, hein, comme nous l'avons lu tout à l'heure, de faire connaître la grandeur, la glorieuse richesse de ce mystère, Christ en vous. Alors, nous comprenons à ce moment-là que parce que l'éternité en Christ se trouve dans notre cœur, eh bien nous ne pouvons que bénir le Seigneur et de dire, mais Seigneur, c'est extraordinaire, il y avait un mystère et tu m'as révélé ce mystère. Ce n'est plus un mystère qui est révélé. C'est de la connaissance et de la révélation. Et c'est l'Évangile qui nous donne cela. C'est pourquoi Paul dira, mais je m'attache à annoncer, à faire passer cette communication de Dieu auprès de tous les hommes. À partir de cela, comme Salomon, l'on peut dire, au verset 12 et 14 de notre texte, « J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Merci, mon Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait est éternel. Il n'y a rien de, finalement, d'imparfait ni de défectueux. Ne disons pas que Dieu se trompe, mes frères et sœurs. Quelquefois, dit Seigneur, hein, tu sais, c'est dur, hein. Tu aurais pu me faire une autre part, parce que quand je regarde mon frère, ben lui, il a plus que moi. Qu'est-ce que c'est? De la jalousie. Si vous ne voulez pas, si vous voulez regarder aux autres, au lieu de regarder au Seigneur, eh ben vous n'aurez jamais votre part. C'est pas pour rien qu'il nous ait dit d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Dans le livre des Hébreux, vous connaissez ce texte. Alors, afin qu'on le craigne, pas de cette crainte servile, qui nous terrorise en disant « Oh là là, il va m'arriver quelque chose parce que Dieu est au-dessus de moi et moi je suis... Bah, » Non. Il y a la notion d'amour dans cette affaire. Le meilleur chemin repose sur la reconnaissance de nos limites, des possibilités infinies de Dieu, la gratitude pour ses bienfaits, l'appréciation de ses bénédictions, soit sur sa souveraineté en tout, partout et surtout. C'est ça le message. Dès l'instant où nous acceptons la réalité de ce Dieu qui contrôle toutes choses, alors tout du présent, tout de l'avenir et de l'éternité prend une valeur incomparable, inestimable, magnifique et merveilleuse. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Parce que nous le croyons. Et c'est Jésus qui conclut notre méditation. J'ai voulu que ce soit Jésus qui conclut avec une parole que vous connaissez. Il conclut et résume notre pensée ce matin. Écoutez, elle est sublime, elle est belle, elle est magnifique. Elle vient de Dieu. Jésus dira dans l'évangile de Jean, « Or, la vie éternelle, et je dirais que la vie simplement, mais j'ajoute la vie éternelle, en plus et au-dessus de tout, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Que Dieu nous bénisse ce matin. Fortifions notre foi. Regardons au Seigneur. Oui, Seigneur, tu m'as donné la vision d'un homme qui croit en toi et qui se répand en toi. Ma vie, eh bien, c'est ta vie et ta vie, c'est ma vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.